À l'océan?
I hope for your help to explore and protect the wild ocean in ways that will restore the health.
Les destructeurs de l'océan peuvent commencer à trembler. La puissance citoyenne est en chemin.
Health to the ocean means health for us.
Nous sommes la détermination, nous sommes le nombre et nous sommes inépuisables. Aux amoureux de l'océan et aux défenseurs du climat, de la justice et d'un vivre ensemble joyeux et réinventé. Le combat ne fait que commencer. La
Bienvenue dans À l'océan, l'émission qui donne des nouvelles de nos océans, nos abysses, nos mers, nos littoraux, bref, de nos milieux marins et des merveilleuses créatures qui s'y trouvent, mais aussi des menaces et des destructions qui pèsent sur ces écosystèmes. Pas de panique, je vous donne des petits tips pour lutter contre. Je m'appelle Clotilde et je suis passionnée de biologie marine. Je vous invite à mettre vos palmes, votre tuba et plongeons ensemble à la découverte de notre planète bleue. En cette période hivernale, vous l'avez remarqué, nous sommes plongés dans l'obscurité très tôt. Alors je me suis dit, quitte à être dans le noir, autant vous emmener dans les endroits les plus sombres de notre planète, j'ai nommé les abysses. Et puis accessoirement, j'en parle tout le temps dans le générique, donc il était temps d'aller les explorer. Cette fois, ce n'est pas d'un masque et d'un tuba dont vous aurez besoin, mais bien d'un sous-marin pour voyager dans les abysses. Alors, empruntons le Nautilus de Jules Verne et plongeons.
Équipe de centrale en plongée. Profondeur à 50 mètres.
Immersion 50 mètres. Ouvrez les purges. Sortez les paravents. Assiette moins 5.
Ouvrez les purges. Assiette moins 5.
Les fonds océaniques restent un milieu inconnu. Nous connaissons mieux la surface de la Lune que celle de nos fonds marins, c'est pour dire. Les abysses représentent la moitié de la superficie de notre planète, soit 326 millions de kilomètres carrés, et nous en avons exploré seulement 5%. Les fonds marins se composent de 5 zones. Amorçons notre descente à travers celles-ci. Tout d'abord, nous nous sommes immergés dans la zone épipélagique, de 0 à 200 mètres. C'est là où nous nous baignons. Il y a de la lumière, les organismes font de la photosynthèse, c'est une zone familière. Nos instruments de mesure du Nautilus nous indiquent tout de même une pression déjà de 20 fois la pression atmosphérique. Puis, nous pénétrons dans la zone crépusculaire, ou mésopélagique, qui s'étend de 1000 à 4000 mètres de profondeur. Ici, la lumière du soleil n'arrive plus. La photosynthèse est impossible. Allumons les phares du Nautilus. Il n'y a rien. C'est le noir complet. Non, attendez. Qu'est-ce que c'est que toutes ces petites particules qui sont devant nos phares? On dirait comme s'il neigeait sous l'océan. Eh oui, c'est ce qu'on appelle de la neige océanique. Elle est composée de toutes les particules en suspension qui proviennent de la surface, comme celles issues de la décomposition des végétaux, des cadavres d'animaux, ou encore les sédiments ou la pollution humaine. Bref, tout ce qui coule depuis la surface. C'est une manne formidable de nutriments pour toutes les espèces abyssales. Mais continuons notre descente. Nos capteurs nous indiquent que nous venons à présent d'entrer dans la zone de minuit, ou bathypélagique. C'est-à-dire que nous sommes entre 4000 et 6000 mètres de profondeur. Ici, c'est la nuit noire, le noir complet. Attendez, je reçois un message d'un scientifique du Nautilus.
Tu vois une lumière? Quel genre de lumière, Bud?
Il hallucine, hein, Max.
Oui, notre expédition comprend bien comme membre de l'équipe Bud, le héros d'Abyss de James Cameron. Nous avons du budget cette année à l'océan. Celui-ci n'est pas en train d'halluciner. Je les vois aussi, ces lumières, à travers le hublot. Cette zone obscure des fonds océaniques s'éclaire furtivement grâce aux différentes espèces qui y pratiquent la bioluminescence. C'est une réaction chimique qui se passe dans les cellules que l'on appelle photophores et qui produit de la lumière. C'est ce qui permet aux créatures qui peuplent les abysses d'interagir avec leur environnement. En effet, la bioluminescence leur sert à se reproduire, à s'identifier entre espèces, à s'orienter, à chasser et à communiquer. Certains calamars changent la longueur d'onde des lumières qu'ils émettent, variant ainsi les couleurs, pour modifier le message qu'ils veulent transmettre à leurs congénères. Créer de la lumière peut aussi servir de diversion dans ce monde où il n'y a pas de cachette. Certaines méduses, par exemple, expulsent des traînées luminescentes pour échapper à leurs prédateurs. C'est une véritable fête foraine de couleurs, de lumière douce qui surgit à 4000 mètres de profondeur. Mais cette féerie n'a qu'un temps, car face à notre hublot vient de surgir un revenant. De son nom scientifique Macropina microstoma, le revenant est un poisson au crâne translucide, bioluminescent, à travers lequel nous pouvons voir ses énormes yeux tubulaires. Cette sphère globuleuse qui renferme sa tête est sensible à la pression et explose quand elle est remontée à la surface. Malgré son apparence fantomatique et un peu douce, c'est un tueur hors pair qui arrive à repérer ses proies grâce à leur odeur ou à la moindre petite lumière qu'elles émettent. Le fonctionnement de ses yeux reste encore un mystère. Il n'est pas la seule créature spectrale à passer devant l'hublot de notre submersible. Voilà que s'approche de sa nage fantomatique un poulpe à oreilles, ou plus communément appelé un poulpe Dumbo. Il est très pâle, comme vêtu d'un drap blanc, avec des yeux globuleux et des grandes nageoires comme des oreilles qui lui servent à se déplacer. On ne sait presque rien de son mode de vie car il évolue entre 400 et 7000 mètres de profondeur. Nous atteignons à présent la zone abyssale qui s'étend de 6000 mètres à 10 000 mètres de profondeur. Notre submersible grince un peu des boulons, car ici, la pression à 6000 mètres est de 600 kg par centimètre carré. Nous venons de nous poser dans une plaine abyssale. Elle s'étend du pied du plateau continental jusqu'au dorsal océanique. Elle est recouverte de sédiments issus de l'érosion de la roche océanique et des débris organiques issus de la surface. C'est là que vient se déposer les flocons de neige océanique qui ont été dégradés tout au long de leur descente. Malgré ces conditions extrêmes de pression, d'obscurité et de faibles nutriments, nos phares éclairent une biodiversité foisonnante, avec des éponges, des vertubicoles, des étoiles de mer, des holothuries, c'est-à-dire des concombres de mer, des crustacés, des mollusques, des bivalves ou encore des calamars et même des poissons. Essayons de se rapprocher pour les observer. Tiens, il semblerait que nous ayons heurté quelque chose. Ah, c'est un nodule polymétallique, une sorte de galet gris anthracite de quelques centimètres de diamètre. Ce galet patatoïde renferme des métaux rares qui sont très convoités pour permettre le fonctionnement de nos batteries, celles de nos téléphones portables par exemple. La création de ces étranges cailloux est issu d'un phénomène chimique d'accrétion des minéraux présents dans l'eau. Dans le centre des nodules peut se trouver une dent de requin, une coquille ou un os de poisson, bref, tout ce qui est solide et sur lequel vont s'accumuler les métaux présents dans l'eau jusqu'à former ces petits galets. Leur taux de croissance est de 1 mm en 10 000 ans et contiennent des métaux tels que le fer, le manganèse, le cobalt, le cuivre ou encore des terres rares. Ces nodules sont des aubaines pour une biodiversité qui se fixe dessus, s'y cache et les colonise. Ce sont ces nodules et les minéraux qu'ils contiennent qui attirent les industries minières et qui veulent lancer l'exploitation minière des fonds marins ou encore le deep sea mining. Pour comprendre les projets de deep sea mining, il faut s'imaginer d'énormes moissonneuses batteuses raclant la plaine abyssale pour récolter tous ces nodules. Cela détruirait tout l'écosystème présent et notamment toute la biodiversité qui est peu résiliente à ces profondeurs. Les industries minières prétextent que nous avons besoin de ces métaux pour nos batteries et pour amorcer la transition écologique. Mais c'est un faux argument. Les scientifiques montrent que nous avons déjà extrait énormément de métaux à la surface de notre planète et qu'il vaut mieux investir dans des techniques de recyclage de ces derniers pour répondre à nos besoins. C'est ce qu'ont réussi à faire comprendre les activistes françaises Anne-Sophie Roux et Camille Etienne, ainsi que toute leur équipe, à la Norvège. le gouvernement norvégien a renoncé de démarrer l'exploitation de ses fonds marins et de faire 4 ans d'exploration plutôt que d'exploitation. Cette victoire est énorme pour inciter plusieurs autres pays à faire de même. C'est le cas de la France, qui est fermement opposée à cette technique extractiviste. Pour mieux comprendre les enjeux de ces projets d'exploitation minière des fonds marins, je vous invite à suivre le collectif de Camille Etienne et Solal Moisan, Avant l'orage, qui utilise l'art comme outil et moyen de déclencher l'action face à la destruction du vivant. Ce collectif a réalisé une vidéo bien plus complète et claire sur le sujet. Le lien est dans la description. Nous voilà sortis des plaines abyssales et nous reprenons notre descente dans la zone Adal, qui se trouve au-delà des 10 000 mètres de profondeur. C'est l'équivalent de presque 30 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Ces environnements les plus profonds correspondent à 1% de la surface de notre planète. La plus profonde fosse est celle des Mariannes, dans l'océan Pacifique au large des Philippines, et qui plonge jusqu'à 10 984 mètres. La pression y est 1000 fois supérieure qu'à la pression atmosphérique. Ces environnements si sombres, si hostiles, portent le nom de Adal, qui provient du grec ancien Aedes, que l'on ne voit pas, et qui rend aussi hommage à Hadès, le dieu des enfers.
Lui, le dieu des enfers, avec les morts et durs et pervers, il n'est qu'un jeu, blessure et brûlure, ça c'est du gospel pur.
Mais c'est une hirondelle qui vient à notre rencontre. Oui, une Hirondella gigas, qui fait partie de la grande famille des crustacés et qui ressemble à une petite crevette. Mais comment une créature peut-elle vivre à une telle profondeur? Cette merveille possède une armure en aluminium sur tout son corps qui protège son exosquelette en calcaire. Tony Stark n'a rien inventé. Elle puise l'aluminium dans les sédiments des fonds marins dont elle se fait un gel protecteur. Cette Iron Crevette vit dans la fosse des Mariannes. Les fosses océaniques sont tellement profondes et parfois isolées du reste du monde marin que les scientifiques estiment que 58% des espèces d'une fosse lui sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne la trouve nulle part ailleurs sur la planète. Il est estimé entre 1 et 10 millions le nombre d'espèces qui restent à découvrir dans les abysses. Ça en fait des Avengers en puissance. Malheureusement, notre Iron Crevette ne trouve pas que de l'aluminium dans les fonds abyssaux. Il y a aussi des débris plastiques à 10 898 mètres de profondeur, et oui. Et l'analyse des échantillons de sédiments prélevés montre des taux de pollution au PCB, un produit issu d'hydrocarbures pour les colorants artificiels, entre autres, comparables à ceux de la baie de Seine. C'est sur cette dernière image de l'impact de la pollution humaine sur les fonds marins que nous amorçons notre remontée à la surface. Ça me désespère de voir que nous avons même réussi à polluer cet environnement aussi éloigné de nous. Pas vous ? Est-ce qu'il ne serait pas temps d'évoluer dans nos modes de production, de consommation, même nos modes de vie, afin d'arrêter ce désastre ? Vous ne pensez pas ? Voilà, nous sommes de nouveau à l'air libre, à la pression atmosphérique. Le monde des abysses est fascinant. Loin d'être sombre, austère et inhabité, il abrite de nombreuses créatures, certaines lumineuses, aux super-pouvoirs encore inconnus ou mal compris. Leur écosystème est fragile et peu résilient. Il nécessite toute notre attention pour le protéger de nos pollutions et des appétits extractivistes de notre système. Cette plongée en eau profonde à bord du Nautilus avec l'équipage d'Al-Océan se termine. J'espère qu'elle vous a plu et que vous n'avez pas trop les oreilles bouchées. Je vous laisse pour ma part avec The Sound of Silence de Simon et Garfunkel. Allez, je vous fais des bisous salés bien sûr. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath
'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence.